Our God is woman.
Our mission is protest.
Our weapons are bare breasts.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les Femen. Retour sur l'histoire de ce mouvement d'activistes féministes au sein nu, venu tout droit d'Ukraine. L'une vole le petit Jésus dans la crèche du Vatican le 25 décembre 2017. D'autres accueillent à leur façon, mouvementés, le président turc Erdogan à Paris le 5 janvier 2018. À cette période, il ne se passe pas une semaine sans que le groupe d'action ne fasse parler de lui. Créé en 2008 par trois Ukrainiennes idéalistes pour militer contre une industrie du sexe et le patriarcat, le mouvement a acquis une aura internationale depuis 2012 et son installation en France a été portée par son actuel leader Ina Shevchenko. Les Femen font souffler un vent nouveau sur le féminisme, autant qu'elles suscitent la polémique et parfois l'incompréhension. En cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons cette émission sur les Femen, en écho avec la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, bien sûr, car c'est là que les femmes en Ukraine se sont distinguées dans un esprit de résistance, déjà. Notre invité aujourd'hui, Galia Ackermann, docteur en histoire et chercheur associé à l'Université de Caen, journaliste et autrice de plusieurs livres, dont l'un sur les femmes chez Kahneman-Lévy en 2013. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Héloïse Daviau, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jakubowiez et Flora Bernard.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Été 2012, l'Ukraine et la Pologne se partagent l'organisation de l'Euro de football. Des hordes de supporters envahissent les rues de Kiev et de Varsovie. Des mâles venus du monde entier, bien décidés à allier sport et plaisir et à profiter de la spécialité supposée ou réelle des pays de l'Est, de jolies filles, bon marché, escort girls, prostituées, étudiantes qui arrondissent leur fin de mois. Depuis quelques années, l'Ukraine est devenue une place forte du tourisme sexuel. Et le pays s'est bien préparé à l'occasion de l'Euro. Des dizaines de lupanars ont été ouverts. Ils sont pourtant interdits, mais passe-droits et magouilles fleurissent. C'est que tout le monde espère tirer profit de l'événement sportif à sa façon. Le vendredi 8 juin, 18h, la Grèce et la Pologne s'affrontent au National Stadium de Varsovie. Dans un petit appartement de la capitale polonaise, trois jeunes ukrainiennes se préparent à aller accoster les supporters. Le commando est composé de deux blondes, Sacha et Eugenia, et d'une brune, Oksana. Elles lissent leurs cheveux, mettent une touche d'eyeliner sur les yeux et du rouge à lèvres, aux lèvres. Pour se fondre dans la masse, elles se peignent les joues aux couleurs de la Pologne, enfilent perruques et chapeaux de supporters. Les voilà, supportrices, plus vraies que nature. À l'approche du stade, les trois amies se mêlent à la foule bras dessus, bras dessous. Elles savent qu'elles doivent la jouer fine sous peine d'être repérées avant même d'avoir pu tenter quoi que ce soit. Elles arrivent sur le parking, leurs regards se croisent, c'est le moment de passer à l'action. En une fraction de seconde, elles font voler leur veste et se retrouvent sans l'air. Elles troquent leur couvre-chef contre des couronnes de fleurs. Sur leur corps dénudé, on peut lire les slogans « Abat l'Euro 2012 et l'Ukraine n'est pas un bordel », écrit à la peinture noire. À bout de bras, elles aspergent de neige carbonique les hommes qui la croisent à coups d'extincteur, censé symboliser une éjaculation, sans oublier de crier « Abat l'Euro ». En voilà une action choc devant les caméras du monde entier. La scène ne dure que quelques minutes, mais elle marque les esprits. Des policiers se jettent sur les filles, les saisissent par les bras et les jambes et les embarquent au poste Manu Militari. Internet et les journaux télévisés se régalent. Les Femen sont en train de se faire un nom. Le monde commence à s'interroger sur ces nouvelles activistes exhibitionnistes. En témoigne ce reportage au journal de 20h de France 2.
Depuis le balcon du plus grand magasin de Kiev, elle crie « Ouvrez les yeux et les esprits !» Les Ukrainiens sont médusés. La police mettra une demi-heure à les déloger sans ménagement. L'image passera dans tous les journaux, objectif atteint pour les Femmes. Mais qui sont réellement ces militantes ? Rendez-vous dans la banlieue de Kiev, chez l'une d'entre elles. C'est ici qu'elles préparent leurs actions.
Le rond rouge, il doit être grand ou petit ?
Elles pourraient être mannequins, elles sont militantes. Leur arme, la transgression. Manifester nues pour attirer les regards et délivrer un message politique.
Une fille toute nue, sans armes, avec seulement une pancarte, elle est fragile face à la violence de la police. C'est à l'image de notre démocratie en Ukraine.
Nos seins sont nos armes. On les porte toujours sur nous. Et ils sont toujours prêts à servir.
Les téléspectateurs de France 2 découvrent sur leurs écrans Sacha Svechvenko, une jolie blonde aux yeux bleus, et Oksana Shashko, petite brune au visage de poupée de porcelaine, deux des fondatrices du mouvement Femen. Ces très jeunes femmes, elles ont à peine 20 ans, aux convictions radicales, intriguent et déroutent. Sont-elles à l'avant-garde d'une nouvelle vague de féminisme ? Que cherchent vraiment ces filles de l'Est à la plastique avantageuse qui manifeste ça à l'air ? En lançant leur mouvement quelques années plus tôt, les jeunes femmes n'imaginaient sans doute pas susciter autant de curiosité à l'étranger. C'est à Kleminski, à l'ouest de l'Ukraine, que tout démarre. Nous sommes au milieu des années 2000. Kleminski, 250 000 habitants, est une ville moyenne sans charme, entourée de villages de paysans. L'hiver y est interminable et lugubre. Surtout, toute la région est complètement sinistrée. Depuis la fin de l'URSS, le chômage frappe nombre d'habitants. Beaucoup trouvent refuge dans l'alcool, le spleen total. Région d'Ukraine la plus proche de l'Europe de l'Ouest, le mode de vie y reste très patriarcal et traditionnel. En résumé, le destin des femmes s'y limite à se marier et à faire des enfants. Sacha et Oksana, les fondatrices du mouvement Femen et surtout le cerveau du groupe, Anna Utsol, grandissent dans ce cadre. Rousse flamboyante, aux cheveux courts, cette jeune femme, étudiante en comptabilité, anime avec son petit ami Victor un cercle de réflexion philosophique marxiste baptisé le Centre des Perspectives. Anna a été marquée par la fin du communisme et l'arrivée du capitalisme en Ukraine. Témoin impuissant des violences de son père sur sa mère sous les effets de l'inactivité et de l'alcool, elle a acquis une conviction. La révolte des femmes contre les injustices sociales peut ébranler le système. Fin 2005, Anna Utsol organise une conférence sur l'œuvre du philosophe Auguste Bebel, auteur de l'ouvrage « La femme et le socialisme ». La blonde, Sacha, a alors 17 ans. Depuis quelques mois, elle est de plus en plus politisée, marquée par les espoirs et les désillusions de la révolution orange de 2004 en Ukraine. Alors, quand une copine de fac lui parle de la conférence d'Anna, elle décide d'y assister. Elle est assise à côté d'Oksana, 17 ans, comme elle, peintre d'icônes religieuses. Pour les deux jeunes femmes, la rencontre avec Anna est une révélation. Plus elles discutent, plus elles s'indignent des injustices sociales et du sort réservé aux femmes dans leur société. Bon, discuter c'est bien, mais que peuvent-elles faire pour que les choses changent ? Eh bien, il faut attendre l'automne suivant pour qu'elles trouvent leur voie. En lisant un journal local, Sacha tombe sur un article autour de la mort accidentelle de deux femmes suite à une erreur de transfusion. Le médecin fautif était probablement sous l'emprise de l'alcool. Révoltée, elle appelle son amie, Oksana. Ni une ni deux, les deux jeunes femmes vont se poster devant l'hôpital, recouvertes d'un drap ensanglanté. Dans leurs mains, elles tiennent une pancarte sur laquelle il est écrit « À qui le tour ?» Et peu importe la neige qui tombe, les deux amies font le siège des heures durant. À la fin de la journée, le gouverneur et un médecin légiste promettent d'engager des poursuites. Deux médecins et une infirmière sont licenciés. Sacha et Oksana ont gagné, elles sont euphoriques. À cette époque, elles sont en train de monter un mouvement féministe avec Anna qui s'est installée à Kiev, la capitale ukrainienne, depuis quelques semaines. L'épisode de l'hôpital les place face à une évidence, elles doivent être des activistes. L'action donc. Mi-2008, le mouvement Femen naît. Le nom qui signifie « la cuisse » en latin est très discuté par les jeunes activistes. Sacha et Oksana auraient préféré « les Amazones ». Mais Anna Victor insiste. Non, Femen, c'est bien plus percutant. Adjugé, vendu. Reste à trouver le mode opératoire et à peaufiner le discours. Un travail qui va prendre plus de 2 ans, comme l'explique sur France Culture Ina Chestensko, membre des Femen. Nous sommes alors en mars 2013.
Depuis 2008 jusqu'à 2010, pendant deux ans, on n'utilisait pas les actions topless, seins nus. Moi, personnellement, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, j'enlèverais ma chemise pendant une manifestation. Je ne pouvais pas m'imaginer comme ça, pour des filles qui s'appellent des activistes dans ce mouvement, pour des militantes. Et pendant deux années, on a essayé d'utiliser des stratégies différentes. On regardait les féministes européens, on les copiait, mais on s'est rendu compte que personne n'était prêt à nous parler, personne n'était même prêt à nous écouter, et même ni même à nous regarder, à faire attention à ces bannières énormes qu'on portait dans la rue et qu'on hurlait dans la rue. Mais personne ne voulait nous écouter ou nous voir. Et pour nous, on voulait hurler. Et c'est un hurlement de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a enlevé nos chemises.
Les femmes ont beau avoir un nom qui claque, leurs débuts sont plutôt timides et assez peu scandaleux. Au printemps 2008, pour la journée de la Terre, elles mettent des vestes roses et font un lâcher de ballon. Quelques semaines plus tard, elles distribuent des bonbons dans le métro pour réclamer un métro positif après plusieurs suicides. Leur premier coup d'éclat se déroule mi-juillet. Des coupures d'eau frappent alors des quartiers entiers de Kiev. Pour protester, elles organisent l'opération « Pas d'eau au robinet, lavons-nous place Maïdan ». Alors, en petite robe et maillot de bain, armées de gel douche, elles se baignent dans la fontaine de la place principale de Kiev. Et cette fois, les journalistes sont au rendez-vous. Mais très vite, le mouvement, ni très féministe, ni très politique, patine. Les jeunes militantes comprennent alors qu'elles doivent passer à la vitesse supérieure. Fini les opérations ludiques et gentillettes. Pour exister, elles doivent être beaucoup plus radicales. Alors, elles trouvent leur nouveau combat, la lutte contre la prostitution, avec la grande opération baptisée « L'Ukraine n'est pas un bordel ». Depuis quelques années, ce pays, c'est un peu la Thaïlande en Europe. De plus en plus provocatrices, les femmes vont jusqu'à s'attaquer en petite tenue à des députés à la sortie du Parlement. Mais le véritable coup de génie va venir d'Oksana, l'artiste de la bande. Depuis quelque temps, les femmes dévoilent certaines parties de leur corps, comme leur dos, leur sein barré d'un gros morceau de scotch. Oksana, elle, va pousser l'audace. Le 24 août 2009, pour la journée de l'indépendance en Ukraine, la jeune femme se porte volontaire pour faire tomber le haut. Debout sur un podium, elle interpelle les badauds et les appelle à manifester pour défendre leurs droits civiques et leur indépendance. Sur la tête, elle porte la traditionnelle couronne de fleurs multicolores ukrainienne. Un symbole fort. Ce sont les jeunes filles non mariées qui les portent encore libres et indépendantes. Alors, l'effet est instantané. Les flashs des appareils photos crépitent. Et l'idée commence à germer. Et s'il fallait se montrer à moitié nu? À cette époque, les activistes tiennent leur réunion au café Banka à Kiev, un ancien hammam où le thé est bon marché. Pendant plusieurs semaines, les membres du groupe s'écharpent sur la question de la nudité, réappropriation de leurs attributs féminins ou attitude sexiste. L'idée de montrer leur poitrine défrise nombre de militantes, notamment l'une des toutes dernières recrues, une certaine Ina Chesvenko. La jeune femme a tapé dans l'œil de Sacha, qui est persuadée qu'elle fera une excellente recrue. Fille de colonel, originaire de la petite ville de Kherson, et jeune étudiante en journalisme, Ina est cependant farouchement opposée à cette idée. Les doutes persistent jusqu'à ce que les femmes prennent toute la mesure du pouvoir de la nudité. Comme l'explique Anna Utsol, le cerveau des femmes, au micro de Caroline Forest sur France Inter.
C'est la situation qui nous a forcés à faire cela, la situation en Ukraine, car il nous a fallu lutter contre le pouvoir ukrainien de façon très radicale, mais de façon non violente. Et à ce moment-là, nous sommes rendus compte que le pouvoir patriarcal a très peur des femmes nues qui protestent. Nous nous servons d'un paradoxe. Le pouvoir patriarcal aime les femmes nues, mais au lit, dans les bordels, au cinéma, mais ils ne les aiment pas du tout quand elles protestent, parce que c'est une sexualité non contrôlée et il est impossible d'avoir une influence sur elles. Et c'est dans cette contradiction qu'est notre force.
Cette prise de conscience a lieu plusieurs mois après la première action topless, lors d'un moment clé, l'élection présidentielle de 2010. À l'époque, les Ukrainiens doivent choisir entre Viktor Yanukovych et Lulia Tymoshenko. Persuadés qu'aucun ne fera avancer la situation sociale, les femmes choisissent de ne pas choisir et entendent bien le faire savoir. C'est Sacha qui s'y colle. Ses copines organisent une mise en scène pour le second tour de l'élection le 7 février 2010. Sacha doit être crucifié seins nus sur une croix composée d'hommes devant le bureau de vote de Yanukovych lorsqu'il viendra voter. Mais le moment venu, rien ne se passe comme prévu. Pris d'un coup de panique, les garçons décampent. Alors, que faire? Eh bien, elles n'ont que quelques secondes pour agir. Il faut frapper fort. Elles ordonnent aux autres militantes présentes de se dévêtir. L'action ne dure que quelques secondes, le temps que les vigiles se remettent de leur surprise et que les journalistes immortalisent l'image. Les filles essaient de fuir comme elles peuvent, mais Sacha finit au poste. Qu'importe, l'opération est un succès.
Vous savez, avant
le topless politique, nous avons plusieurs tentatives de faire des actions topless sur des thèmes sociaux féminins. Et cela n'a pas trouvé autant de résonance dans les médias tant que ça n'était pas politique. Parce qu'à ce moment-là, les femmes nues se sont imposées sur le territoire des hommes, ce qui n'était pas admissible. Et à ce moment-là, il y a eu un grand conflit et les médias se sont beaucoup intéressés à nous.
Pour les fondatrices de Femen, il n'y a plus à tergiverser. C'est bien ce mode d'action qui fera le succès de leur courant. Il faut maintenant le systématiser, quitte à y perdre quelques plumes. 80% des militantes prennent la poudre des scampettes. Mais Ina décide de rester aux côtés d'Anna, Sacha et Oksala. Ces filles-là pensent juste. À partir de l'hiver 2010, elles aident toutes les actions. Et avec elles, elles s'attaquent tous azimuts aux figures patriarcales, religieuses et politiques, de Vladimir Poutine à la classe politique ukrainienne, trop masculine, en passant par la lapidation et l'industrie du sexe. Elles finissent régulièrement au poste de police et sont poursuivies pour hooliganisme. D'abord regardées avec un œil amusé par les autorités, les femmes dérangent désormais. Elles sont prises au sérieux, elles inquiètent même. Et quelques mois plus tard, l'une de leurs actions vire au drame et passe à deux doigts de leur côté la vie.
Go, 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 go
À l'été 2011, Oksana Ina, le dernier membre du noyau dur d'activistes et une troisième militante, décide d'aller manifester en Biélorussie en soutien aux opposants du régime du président Loukachenko. Dans un premier temps, l'action se déroule plutôt bien. Les jeunes femmes arrivent à Minsk sans se faire contrôler par la police. Leur cible ce jour-là est ambitieuse et l'action courageuse. Elle s'attaque au siège de la police politique, pas moins. Arrivée dans le bâtiment, elle se déshabille à la va-vite et déploie des pancartes où il est inscrit « Vive la Biélorussie et liberté aux prisonniers politiques ». Des agents sortent du bâtiment et tentent de récupérer les images de quelques journalistes présents. Les filles, elles, se rhabillent et repartent jusqu'à la gare routière, un peu surprises de s'en sortir à si bon compte. Mais alors qu'elles attendent leur bus, une dizaine d'hommes en civil font irruption et les neutralisent violemment. S'en suivent des interrogatoires menés dans des minibus, des tentatives d'intimidation des heures durant, jusqu'à ce que les agents les transmettent à un autre groupe qui les traîne jusque dans une forêt. La suite, c'est Ina Chevchenko et Oksana Chesko qui la racontent dans le documentaire « Nos seins, nos armes » de Nadia Elfani et Caroline Forest, produit par Nilaya et diffusé en mars 2013 sur France 2.
Ils nous ont déshabillés et enlevé nos pantalons. On était complètement nus dans cette forêt. Ils nous ont obligés à leur tourner le dos et à nous mettre en levrette. Et on était sûr que ça allait commencer quand ils se sont approchés de nous.
Ils nous ont aspergé d'essence. Ils jouaient avec leurs briquets. Donc tu te dis, ok, je vais brûler. À un certain moment, j'ai vraiment senti que j'allais mourir. Je m'étais faite à cette idée qu'ils allaient nous tuer.
S'ils ne nous ont pas tués ou violés cette fois-ci, c'est tout simplement grâce à la popularité des Femen.
Le récit est terrible. À ce moment précis, les Femen pensent leur dernière heure venue. Elles sont finalement relâchées à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne qu'elles franchissent à pied. Elles sont saines et sauves, mais l'épisode est traumatisant, on l'imagine. Ina et Oksana ont eu la peur de leur vie. Les jeunes femmes pourraient alors décider de raccrocher les pancartes et de ranger leur poitrine. Après une mésaventure pareille, cela se comprendrait. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Non, plus rien ne peut les impressionner désormais. Elles se lancent dans des opérations de plus en plus radicales. Le 17 août 2012, à Moscou, doit tomber le verdict du procès des Pussy Riot, ces trois militantes féministes punk russes qui ont chanté une prière rock dans la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou en février de la même année. En guise de soutien, les femmes décident de faire tomber une croix en bois sur les hauteurs de Kiev. Seins nus et tronçonneuse à la main, Ina est à la manœuvre. En quelques secondes, elle fait tomber le symbole religieux devant plusieurs journalistes. Et pour Ina, c'est peut-être l'action de trop. En s'attaquant au sacré en Ukraine orthodoxe, elle vient alourdir les griefs des autorités envers les femmes déjà visées par 5 enquêtes judiciaires et fournit peut-être un ultime argument pour justifier de potentielles arrestations. Quatre jours après, Ina fuit l'Ukraine, seule, direction Paris, où le groupe est en train de monter une antenne. Officiellement, elle aurait été pourchassée par des policiers, une version difficile à vérifier. Toujours est-il que la jeune femme attise la curiosité des médias français qui la présentent d'emblée comme la leader du mouvement.
À la tête de la section française des Femen, Ina Chevchenko, la voilà, fondatrice de ce mouvement parti d'Ukraine. Ses vidéos ont fait le tour du monde, mais après son dernier coup d'éclat à Kiev, des hommes ont défoncé la porte de son appartement. La jeune femme a fui par la fenêtre avec son seul passeport pour se réfugier en France.
Je suis un très bon exemple de femme qui a été attaquée au quotidien par des hommes. Les policiers, les membres des services secrets, le KGB, ils essayent toujours de nous attraper, de nous arrêter. En fait, ils ont peur de nous. Ils ont peur des femmes courageuses qui ont leur mot à dire et qui peuvent changer les choses.
Paris, Ina est accueillie bras ouverts. Safia Lebdi, une ancienne du collectif Ni Pute Ni Soumise, s'est rapprochée des Femen depuis plusieurs mois pour monter l'antenne locale. Quand elle débarque, la militante lui trouve un endroit où s'installer, le lavoir moderne parisien. un ancien théâtre du quartier de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement, qui lui ouvre gracieusement ses portes. Lorsqu'elle met les pieds dans ce quartier métissé, c'est le choc des cultures pour Ina. L'Ukrainienne est déjà venue plusieurs fois à Paris, mais elle n'imaginait pas se retrouver dans un quartier aussi multiculturel. L'installation est un succès. Des dizaines de jeunes femmes se pressent au portillon pour devenir elles aussi des fémines. Ina les voit débarquer avec un œil amusé. Souvent passées par d'autres mouvements féministes, ces jeunes femmes sont plus déshabituées des conférences que des opérations musclées. Elles n'ont pas la même hargne. Les fémines, elles, sont un groupe d'action. Et Ina est bien décidée à endurcir ces petites françaises. De leur côté, Anna, Sacha et Oksana sont restées en Ukraine où elles poursuivent leurs actions. Elles ont confié à Ina une mission, structurer l'antenne française qui doit servir de centre d'entraînement international. Et la jeune femme s'en donne à cœur joie. La fille de militaire qu'est Ina lève et forme son armée, toujours devant les caméras et les micros, car avec les fémines, dès l'origine, tout est une histoire d'image. Ina joue le jeu, comme ce jour-là sur France Inter.
Graffiti sur les murs, un punching ball qui pend d'une poutre, ambiance à mi-chemin entre un squat d'artiste et une salle de boxe.
Maintenant, on va créer les slogans. As much aggression as you can do with your voice. Avec le plus d'agressivité possible dans votre voix. Il faut créer la confusion chez les gens. Vous êtes nus, mais votre visage renvoie de l'agressivité.
Et ce jour-là, une vingtaine de fémines s'entraînent devant des journalistes belges, allemands, mexicains. Et parmi elles, cinq jeunes recrues scandent des slogans en anglais comme « Plus de pape » ou bien « Le printemps de la femme arrive ».
Blonde, froide, aux yeux bleus acier, Ina Shevchenko devient une icône réclamée en une des magazines. Le gouvernement de gauche au pouvoir porte un regard favorable. Et puis cette position de chef plaît bien à Ina. Il faut dire que depuis toute petite, elle a cette âme de leader. Elle veut toujours être la première, partout. Très bonne élève, elle s'est fait élire déléguée de classe, chaque année. Au lycée, elle devient même présidente du comité des élèves, alors qu'elle n'est qu'en seconde. Enfin c'est comme ça, Ina est née pour diriger. Et elle ne compte pas se laisser dicter la conduite du groupe. Avec Safia Labidi, l'ancienne de Ni pute ni soumise, l'idylle ne va pas durer longtemps. Très vite, des divergences de point de vue éclatent. Sur la question de la prostitution, les fémines sont abolitionnistes. Safia Labidi, elle ne l'est pas. Elle a du mal à faire comprendre à Ina les combats qu'elle veut mener pour les jeunes filles françaises des quartiers. Alors, Safia jette l'éponge. Ina doit maintenant réussir à installer les fémines dans le paysage français. À l'automne 2012, le pays se déchire autour du projet de loi sur le mariage pour tous du nouveau gouvernement de François Hollande. Une frange de Français catholiques, farouchement opposée à la mesure, montre qu'elle est aussi capable de mobiliser et de manifester de façon parfois virulente. La mobilisation porte le sceau de la religion et concerne l'égalité des sexes. Depuis Paris, Ina en discute avec les filles restées en Ukraine. Leur décision est prise, ce combat doit être celui des fémines. Le 18 novembre 2012 doit avoir lieu une grande manifestation nationale des opposants au mariage pour tous devant le ministère de la Famille. Les fémines saisissent l'occasion pour monter une opération spectaculaire. Oksana fait même le déplacement d'Ukraine pour y participer. Coiffée de voiles de nonnes noires et uniquement vêtue de petites culottes, elle débarque au milieu de la manifestation en ayant bien pris le soin de prévenir les journalistes, le JT de France 2 notamment.
Sous les coiffes de nonnes, les fémines lancent une attaque très médiatique. Leurs armes, des slogans provocateurs, certains blasphématoires et des bombes de poudre alimentaire avec lesquelles elles aspergent les manifestants. En face, la réaction est d'une extrême violence.
On vaincra parce que c'est des putes. C'est pas en se mettant à poil qu'on va gagner.
Beaucoup de bleus et de pleurs aussi. Au final, les militantes du Fémen auront réussi leur coup de force devant les médias.
Ina a laissé une dent dans la bataille. Oksana, elle, a une trace de sang sur le visage. Les regards sont graves. Certaines sont au bord des larmes. Les militantes se tiennent par la taille pour se soutenir. Mais elles le savent, quelque chose de très fort est en train de se passer. La violence qu'elles viennent d'affronter les soude plus que jamais et achève d'asseoir Ina comme leader incontesté et admiré des Françaises. Sacha et Oksana l'apprennent à leurs dépens quelques mois plus tard. En Ukraine, elles sont de plus en plus surveillées et se sentent toujours plus menacées. En avril 2013, elle s'attaque au président russe à la foire de Hanovre, où il est en visite avec Angela Merkel. Elle lui saute dessus au cri de « fuck dictateur ». Depuis, la pression sur elle est énorme. Elle subit plusieurs agressions, enchaîne les convocations au tribunal et au commissariat. Le moment est peut-être venu de rejoindre Ina en France, après tout. Sauf que, refus catégorique de l'intéresser. Peut-être craint-elle de voir son nouveau pouvoir menacé par sa vieille compagne de galère. Quelques jours plus tard, tout bascule. Nous sommes au mois d'août 2013. À Kiev, des policiers débarquent dans leur local du 21 rue Mikhail Ovaskaya. Ils auraient été avertis par une source anonyme de la préparation d'un attentat par les Femen contre Vladimir Poutine et le pop Kirill. Les policiers sont un peu patous, ils n'ont pas l'air de savoir comment par où commencer. Il faut sortir Sacha et Oksana de la pièce et découvrent quelques minutes plus tard, comme c'est étrange, un pistolet, une grenade et deux photos grossières du pop et de Poutine, une cible noire entourant leur tête. Sacha et Oksana comprennent tout de suite qu'elles font l'objet d'une machination. Résignées, elles savent pourtant qu'elles ne peuvent plus lutter et elles se voient déjà en prison pour de nombreuses années. Mais le policier qui mène l'opération les laisse filer, à leur grande surprise. Mais là, elles n'ont plus le choix. L'Ukraine, c'est terminé. Elles se réfugient donc à l'ambassade de France et prennent bientôt l'avion pour Paris, où elles espèrent bien être accueillies par Ina et les militantes françaises. Ouais, mais à l'arrivée, c'est la désillusion. Elles sont bien hébergées au lavoir moderne, mais elles sont vite marginalisées par Ina et les activistes françaises, au point de finir complètement exclues de leur propre mouvement un an plus tard. Ina est donc seule maître à bord, et le mouvement prend une autre tournure. Les Femen sont devenues une marque qui s'exporte partout dans le monde. Pour continuer à faire parler d'elles, Ina mise sur la surenchère.
Et la démission de Benoît XVI a déclenché une réaction inattendue et provocatrice, celle des féministes du mouvement Femen. 8 d'entre elles se sont exhibées, vous le voyez, seins nus devant la nef de Notre-Dame de Paris. Elles voulaient fêter, disait-elle, le départ du pape. Vous l'imaginez, elles ont été très vite expulsées par le service d'ordre de la cathédrale.
Les cloches de Notre-Dame 2013 pour la renonciation de Benoît XVI, puis un drapeau salafiste brûlé devant la mosquée de Paris, pourtant loin d'être extrémiste. Le message est de plus en plus brouillé et ses actions suscitent l'incompréhension de l'opinion publique. La presse commence à tourner le dos aux Femen, que les combats menés en Ukraine semblent loin. Au fait, les Femen sont-elles toujours aussi révolutionnaires ?
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Prends garde
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les Femen, dont nous allons parler avec notre invitée Galia Carman. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, Paris-Sorbonne et chercheuse associée à l'université de Caen. Vous avez été journaliste à RFI, à la revue Politique Internationale. Vous êtes rédactrice en chef du site Desk Russie qui décrypte l'actualité russe. Vous êtes par ailleurs l'autrice de plusieurs livres, dont l'un sur les Femen, justement, chez Kalman Levy en 2013. Et votre dernier livre, intitulé Tchernobyl, vivre, penser, figurer, que vous avez dirigé avec Irina Dmitrychin, a été publié aux éditions L'Harmattan l'an dernier. Voilà. Alors, depuis le déclenchement de la guerre, l'émission Affaires Sensibles se fait l'écho, évidemment, du passé qui peut expliquer le présent. Hein, c'est notre route habituelle. Le lien entre les Femen, ce qui se passe aujourd'hui, semble être l'illustration de cet esprit de résistance des Ukrainiens et des Ukrainiennes, bien sûr. Est-ce que vous faites ce lien-là également, vous?
Je crois que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, l'affaire des Femen m'a intéressée d'abord pour, d'un point de vue, je dirais, sociologique. J'ai observé en leur parlant, en lisant ce qu'ils ont fait, en parlant avec d'autres personnes, qu'en fait, c'était l'esprit de cette jeunesse rebelle qui voulait sortir du soviétisme et qui prenait des idées qui étaient très nouvelles pour la société ukrainienne, encore très patriarcale, c'est-à-dire le rôle des femmes, la lutte contre le chauvinisme mâle. Et ce qui était intéressant, c'est que pratiquement dès sa création, ce mouvement était tourné vers l'extérieur. Vous savez, il y a une grande différence entre les sociétés civiles et les oppositions en Ukraine et en Russie, même quand la Russie était encore beaucoup plus démocratique que maintenant. Les opposants russes étaient toujours occupés que de leurs propres problèmes, si j'ose dire. Et même j'ai eu des discussions avec certains parmi eux en disant, mais vous devriez réagir sur ce qui se passe, disons, au Venezuela ou ailleurs. Et on me répondait toujours, ah, mais on a plein de problèmes à nous. En revanche, les Ukrainiens se sentaient bien dans le concert des nations et s'intéressaient aussi à d'autres pays, à d'autres problèmes, pouvaient être solidaires avec des situations très éloignées de ce qui se passait chez eux. Par exemple, les Femen ont
donc elles illustrent, pardon, elles
illustrent en faveur de l'Iran.
Ouais, les Femen illustrent bien cet état d'esprit ukrainien qui est tourné vers l'extérieur, et on peut le dire, plutôt vers l'Occident, et on comprend quelle serait leur douleur s'ils étaient happés par la Russie de Poutine, eux qui ont tellement cette envie d'universalisme, en fait.
C'est tout à fait vrai. Maintenant, le mouvement Femen, je crois, a plus ou moins vécu, mais il y a une société civile ukrainienne a été tournée résolument vers l'Occident. D'ailleurs, on a adopté les méthodes des ONG occidentales. Il y avait beaucoup de place aux réseaux sociaux et surtout on partageait la douleur des autres, mais on cherchait aussi que les Occidentaux puissent comprendre les Ukrainiens, ce qui malheureusement n'a pas toujours été le cas.
À votre avis, quel était le point de bascule pour la notoriété, l'efficacité du combat des Femen? Parce qu'au début, elles étaient moins connues, évidemment. Est-ce qu'il y a eu pour vous un événement particulier qui les fait entrer vraiment dans le débat public?
Ben, je crois que la leur parution la plus scandaleuse, si j'ose dire, a été quand elles ont failli vraiment attaquer Vladimir Poutine il y a quelques années à Hanovre lors d'une grande foire internationale. Ça a fait parler d'elle plus exactement, mais il faut dire aussi que en fait leurs grandes actions se sont finalement déroulées en Occident parce que leur naissance et les années de leurs activités en Ukraine ont coïncidé avec Viktor Yanukovych au pouvoir. Et donc, elle ne pouvait pas faire beaucoup de choses et surtout se faire parler beaucoup d'elle. En revanche, quand elles sont arrivées en Occident, il y a eu une attention tout à fait extraordinaire à tout ce qu'elles faisaient. Et pendant 2-3 ans, chacune de leurs actions avait un éclat. Tout le monde ne les aimait pas en Occident non plus, surtout parce qu'ils ont fait quand même des actions aussi contre le pape, tout un scandale et, avec du grabuge, on peut dire, à la cathédrale Notre-Dame. Mais globalement, elle croyait que elle n'existait que si elle était relayée par des médias. Et il faut dire que elles ont parfaitement réussi ce pari.
Vous disiez le mouvement Femen a vécu. Alors, je rappelle que le récit qu'on vient d'entendre est un récit qui a été diffusé en 2018. Pardon, donc il faut toujours tenir compte, évidemment, des évolutions entre-temps, en 4 ans. Que deviennent-elles aujourd'hui, les Femen?
J'ai l'impression que les Femen historiques, à part Inna Shevchenko, qui a été leur chef, que ce mouvement historique, les 4 filles qui en fait ont fondé le mouvement, les 3 sont parties, on peut dire, avec des trajectoires très différentes, parce que celle qui a été ma féminine préférée, je dirais, Oksana Shashko, s'est suicidée. Il y en a une qui s'est mariée et a commencé une vie tout à fait normale, a eu un enfant, c'est Sacha Shevchenko. Mmh. Et il y en a une quatrième, Anna, qui est partie en Suisse et qui, elle aussi, s'est totalement déconnectée du mouvement. Inna, de son côté, a essayé d'organiser les nouvelles femmes avec quelques recrues françaises, mais j'ai l'impression que l'élan n'était plus le même, et donc finalement, Inna elle-même, elle travaille maintenant à Charlie Hebdo.
Oui. Inna Shevchenko, hein, on parle d'elle, vous le prononcez mieux que moi évidemment, qui était leader. Puisque nous parlons des femmes en ce 8 mars et que nous parlons de l'Ukraine, on va écouter une chanteuse ukrainienne qui chante Aliona, qui chante Lava.
Більше не литиму сліз, я вже не плачу, саме на витримка, все яскравіше без лінз. Я тепер бачу, стримую викрики, люди приходять ні звідки, йдуть у нікуди, така їхня роль. Ти якось прийшов і залишився тут. І чомусь не йдеш, бачиш моє життя, ніби смузі з боді. Я тікаю від всіх, я ховаюсь в воді. Я холодна, мов лід, я не тану від слів, але тану в тобі, просто тану в тобі. Ти як лава, а твоя любов то є лава. І тому так сильно просто відчувай мене поряд, хай усі постійно говорять, крилами і щастя без горя. Будемо літати, нам на всіх начхати, їм нас не дістати, на перинах фати, на перинах фати, фати, на перинах фати. чого була. Як я до цього жила, то зна. Мене з'їдали діла, мене ковтали тіла. До дна, так прилітали літа. Осінь, зима, чергова, весна. Ти не залишився тут, і тепер ніколи не підеш. Бачиш, я з тобою інша. Свій тепер і наші фарби стали яскравіші. Серед цих людей ти помітив мене. У твоїх долонях тану день за днем. Просто відчувай мене поряд. Хай усі постійно говорять. Знаю, під цей трек на повторі. Будемо літати. Нам на всіх начхати. І в нас не дістати. На перинах фати. На перинах фати. Фати. На перинах фати. Фати.
Dans son blog, la journaliste Anne-Cécile Mayfair cite Ina Shevchenko, dont on parlait tout à l'heure. Elle dit « Aujourd'hui, l'Ukraine semble se battre seule contre un ennemi puissant. Elle se bat pour des valeurs que l'Europe était censée défendre, mais dont elle a oublié le sens. » Que pensez-vous de cette réflexion-là, Galia Ackermann?
Je pense que c'est vrai, peut-être à moitié. Je crois que, en effet, pendant les événements du Maïdan en 2014, les Ukrainiens ont forcé un peu l'admiration des Européens parce qu'ils se battaient pratiquement sous les drapeaux ukrainiens et européens qui étaient accrochés et affichés partout. Ils se battaient pour une association avec l'Europe pour devenir plus tard, un jour, les membres de l'Union européenne, mais aussi pour, en fait, promulguer les valeurs européennes chez eux. Un État transparent, séparation des pouvoirs, lutte contre la corruption, tout ça. Et je crois que l'Europe n'a pas suffisamment soutenu l'Ukraine issue du Maïdan. Une Ukraine pro-européenne qui avait beaucoup de démons du passé et qu'il fallait soutenir très fort. Et notamment puisque la Russie a annexé la Crimée et a soutenu les deux républiques séparatistes du Donbass. Il a fallu peut-être aussi donner des gages à l'Ukraine pour ses aspirations européennes. Peut-être fallait-il l'aider davantage parce que la situation économique du pays a été déplorable. Mais je me souviens très bien qu'en 2014, on avait l'impression que le cœur de l'Europe se bat à Kiev et que les Ukrainiens se battent pour leur liberté et pour cet avenir européen avec une force beaucoup plus importante que celle des Européens qui étaient plongés, comme tout le monde occidental, dans plutôt une société de consommation où il n'y a pas tellement de place à des idéaux. Mais ce n'est pas vrai de toute l'Europe, ce n'est pas vrai de tous les Français. Donc c'est une vérité à moitié. Mais encore une fois, le soutien aurait dû être plus important.
Une question d'actualité là sur la guerre, et on finira avec celle-là, parce que c'est le débat depuis deux ou trois jours, la question qui revient sans cesse, faut-il couper le robinet du gaz russe? Quel est, à votre avis, le rapport bénéfice-risque d'une telle initiative?
Personnellement, je pense que nous ne pouvons pas nous projeter beaucoup dans l'avenir. On ne sait même pas si la menace nucléaire de Vladimir Poutine est réelle ou c'est du bluff. Je pense que plus on accule le régime russe au pied du mur, plus il y a de chances peut-être d'un coup d'État à l'intérieur. Parce que quand vous avez un homme comme Poutine aux commandes, En fait, la société russe est totalement maintenant décimée. Tous ceux qui pouvaient partir sont partis, des journalistes indépendants, des éditeurs, l'intelligence est en grand nombre, des jeunes scientifiques, etc. Maintenant, la censure est totale. C'est un royaume, on peut dire, du mensonge, parce que toute la propagande russe concernant l'Ukraine et cette guerre est totalement mensongère. Mais la société, comme les répressions sont très sévères, la société ne pourra pas faire une révolution comme ça s'est produit en Ukraine, comme ça s'est produit dans certains pays arabes, tout simplement parce que la répression est trop forte.
Gaïa Ackermann, pardon, juste, il vous reste 15 secondes, j'ai parlé de votre livre Tchernobyl, vivre, penser, figurer, je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Que dites-vous en trois phrases dans ce livre, vivre, penser, figurer, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on a rassemblé des textes de gens qui, d'une part, ont vécu à Tchernobyl, ont vécu cette catastrophe, ont travaillé à la liquidation, mais aussi de gens qui ont réfléchi à ce que ça signifie pour l'humanité, aussi des gens qui ont écrit sur Tchernobyl, pas seulement des articles scientifiques, mais de la fiction, par exemple, qui ont créé des œuvres d'art consacrées à Tchernobyl, etc.
Ok, très bien, merci. Je voulais vous demander, parce que ça m'intriguait, c'est vrai qu'à la lumière de ce qu'on vit, enfin de ce qu'on voit en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, on a envie de lire à peu près tous les livres qui parlent de l'Ukraine et de la Russie. Merci infiniment, Gaïa Ackermann. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'FMN, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Thomas Langlin.